John Connor, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance.
www.libradio.org.
Nous voici de retour dans les conditions du direct, ici depuis la PAC de l'association La Comète au Pavillon Bleu. C'est en plein cœur des grottes, juste derrière la gare Cornavin à Genève. Et nous sommes arrivés à la dernière partie de notre émission en compagnie de José. Bienvenue à toi, José.
Merci.
Tu nous as rejoint pour parler de la révolution des œillets, puisque, et le tract le dit parfaitement bien, la révolution des œillets en trois événements, à l'aune du 45e anniversaire de la Révolution qui a eu lieu le 25 avril 1974 au Portugal et dont on va parler sous peu, eh bien, tu organises au sein de l'association qui porte le même nom cette série d'événements. Alors, peut-être dirons-nous quelques mots déjà de la Révolution en elle-même, au moment où elle s'enclenche. Hein, c'est une révolution qui contient différentes singularités, déjà parce que ce sont les forces armées qui l'ont déclenchée, pourrait-on dire. Du côté de la radio, nous, ça nous intéresse parce que c'est vrai que la radio a joué un rôle important au sein du déclenchement de cette révolution, et notamment avec la chanson « Grande de la Villa Morena ». Alors, dans le direct, il était prévu qu'on les passe. Comme on n'est maintenant plus en direct, eh bien, je les mettrai au montage. Mais effectivement, on avait préparé différentes chansons, dont « Grande de la Villa Morena ». Alors, est-ce que l'on commence par situer un petit peu la révolution des œillets, ou est-ce qu'on commence par le programme que vous organisez? Qu'est-ce que tu préfères?
Peut-être parler un peu de contexte. Ouais. De la dite révolution des œillets.
Absolument. Alors,
c'est le côté romantique de la dite révolution, hein, la révolution des œillets, parce qu'en effet, ce n'était pas vraiment une révolution. Parce qu'en effet, nous n'avons pas réussi à toucher les fondements même du système. Le système, malgré le mouvement populaire, il est resté en place. Les mêmes ministères, pas les mêmes ministres, mais les mêmes ministères, la structure d'État, elle est restée en tant que telle. Donc ça n'a pas été vraiment une révolution, mais ça a été quand même ébranlé, hein, la structure. C'est une réalité que le 25 avril de 1974 a été un mouvement populaire très fort, dans la mesure qu'il a été celui le plus profond dans l'histoire moderne du Portugal. Et pourquoi? Parce que pendant pratiquement 48 ans, entre le coup d'État de Salazar en 1928 et après la mise en place de l'État nouveau en 1933, il n'y a pas eu, bon, il y a eu la République qui a été implantée en 1910, mais ce n'était pas vraiment significatif en termes de mouvementation populaire. Avec le 25 avril 1974, oui. Pourquoi? Parce qu'en peu de temps, les travailleurs ils sont sortis dans la rue. Parce qu'il y a eu le mouvement des forces armées, le MFA, qui a pris le pouvoir. Ils ont constitué une junte militaire qui a pris le pouvoir. Et après, ils ont dit au peuple, restez tranquille à la maison, ne faites rien, etc. Nous, on s'en occupe. Et ce qui s'est passé, en réalité, c'est que le peuple est venu dans la rue, ils ont occupé les places, ils ont commencé à discuter politique, chose qu'avant on ne le faisait pas, parce que c'était un régime dictatorial, donc impossible de discuter de politique et de quoi que ce soit, de contester, etc. Et entre-temps, les gens ils commencent à organiser. Et pour dire que juste avant le 25 avril 1974, dans la région de Lisbonne, il y a eu un mouvement de grève assez important de 37 entreprises, compris entre le mois de novembre et jusqu'au 24 avril 1974. 37 entreprises pour un total de 34 000 travailleurs qui ont fait la grève dans un bassin ouvrier d'environ 80 000. Donc c'était pas mal, on était encore sous le régime fasciste. Et pour dire, au mieux comprendre l'ampleur du mouvement qui s'est déclenché après le 25 avril, c'est que du 25 avril jusqu'au 1er mai, fin mai de 1974, il y a eu plus de 250 entreprises en grève, dont la plupart de multinationales, qui a compris environ 180 000 à 200 000 travailleurs qui sont mis en mouvement. Voilà, ça c'était disons, la base...
Le contexte du départ. Voilà. Exactement. Alors, tout de suite, une question très triviale, mais pourquoi les œillets ?
C'était un concours des circonstances. Il y a eu devant la police politique, le siège de la police politique...
Donc la PIDE, c'est ça ?
La PIDE. Police internationale de défense de l'État. Et puis il y a eu des attaques, il y a eu des morts quand même. Trois. On dit qu'on n'a pas eu, mais il y a eu. Quatre, pardon. À ce moment-là, pour éviter un bain de sang entre la police politique et puis les militaires, il y a des vendeuses d'œillets qui passaient et qui remis des œillets à des enfants qui sont allés remettre. Dans le canon du fusil.
C'est une belle image tout de même.
Ouais. Je trouve que c'est très fort. C'est une affiche. Ça existe, une affiche. Parce qu'une photo a été faite et puis ça a été fait un affiche. Ouais.
Ouais. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, finalement, c'est déclenché par le MFA, le Mouvement des Forces Armées. C'est eux les capitaines d'avril ? C'est eux que l'on appelle les capitaines d'avril ?
Tout à fait. En effet, ils avaient constaté qu'il n'y avait plus de solutions militaires pour les colonies. C'était impossible. Les mouvements de libération, MPLA, Frelimo et PAIGC, ils étaient surtout le PAIGC en Guinée-Bissau, ils avaient tout sous contrôle. Mmh. Il y avait plein de zones libérées. Celui qui est devenu après le président du Portugal de la Junte, Spinola.
Oui.
Donc. C'est lui qui était en Guinée-Bissau. Il était vraiment un reclus dans un petit coin où il n'y avait plus personne qui osait mettre un pied à l'extérieur. C'était perdu d'avance, ils savaient très bien. Et puis l'autre phénomène qui est très lié à ça, c'est que comme il y a eu beaucoup de désertions, beaucoup de réfractaires, beaucoup de non-comparus pour l'armée, des gens qui fouillaient, qui choisissaient le chemin de l'exil, ils n'avaient pas de la matière première pour envoyer à la guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et les militaires, et les officiers, et surtout les officiers intermédiaires, qu'on appelle lieutenant, capitaine, tout ça, ils devaient faire plus de commissions. Donc, au lieu de faire une fois 3 ans, deux ou une fois 3 ans, ils étaient appelés à faire 4 et 5 même. Et là, ils commencent à se révolter pour dire non, ça ne va pas, et plus ça ne sert à rien. Et voilà, c'est comment sa contestation, on peut parler.
Oui. Donc on peut dire que la démocratisation du Portugal, elle est intimement liée à la décolonisation.
Ah, complètement.
Ouais. Donc la sortie du Mozambique, de l'Angola, de la Guinée-Bissau.
Complètement.
Ça fait que ça a déclenché, en tout cas ça. Parce que c'est sur ça que le MFA, disons, le texte de, je crois, le livre de Spinola, Le Portugal et l'avenir, parle de ça.
Oui, il donnait quand même une solution néocolonialiste. Hein. C'était pas complètement quelque chose d'indépendance, mais c'est quelque chose à gérer avec les Africains. Bien entendu, quand on dit à gérer par les Africains, ce qui est au-dessus, qui va commander. C'était pas vraiment pas la solution.
Non, d'accord. Juste pour en revenir à l'Estadio Novo, donc le nouvel État qui était l'émanation de Salazar. À ce moment-là, Salazar, en 74, quitte déjà le pouvoir.
Il n'était plus.
Voilà, il n'était plus au pouvoir. Donc, le dernier homme fort, c'est Caetano.
C'est Caetano, Marcel Caetano. C'est un prof de droit. Il était avec une chaire de droit à l'Université de Lisbonne.
Ok, et à ce moment-là, la PIDE est fidèle au pouvoir en place, la police politique.
Complètement.
Et les capitaines d'avril s'opposent justement à cette... à ces envois sans arrêt dans les colonies.
Exactement.
D'accord. Et la population, alors là-dedans, tu as dit tout à l'heure que les forces armées leur ont bien dit de rester prudemment à la maison, mais est-ce qu'on sentait qu'il y avait quand même une prise de conscience et puis un appui populaire, ou comment ça s'est passé ?
Il faut dire que le fascisme, il n'a pas grandi, il ne s'est pas alicercé au Portugal par hasard. Donc il avait une base sociale assez importante. Et les résistances contre le fascisme et la guerre coloniale, c'était des choses très ponctuelles territorialement. On n'a jamais réussi à faire, par exemple, un mouvement de résistance au niveau national. C'était très localisé, plutôt au sud qu'au nord. Et ça, pendant des années, comme ça. Les 5 dernières années, de 70 à 74, on commence à sentir effectivement une conscience montée. contre le fascisme et contre la guerre. Parce qu'on savait que le fascisme, c'était la guerre. Alors, et c'est qui amène cette conscientisation? D'une part, la jeunesse, mm-hmm. qui à partir de 14-15 ans, on était vite confronté au problème de la guerre. Et puis, on commençait à s'engager dans la JOC, jeunesse ouvrière, mm-hmm. catholique, je crois que c'était ça. Et aussi avec les CLAC, le comité de lutte anticolonial, c'était plus politique. C'était plus des gens proches des mouvements de gauche, disons des marxistes-léninistes. Le courant ML commence à s'affirmer dans les universités et même à s'implanter dans une zone ouvrière proche dans les grands bassins comme Bonn, Setúbal, Porto, Covilhã, tout ça, où il y avait une grande concentration ouvrière. Il y avait déjà une conscientisation politique.
D'accord.
Qui commençait à s'imposer, effectivement.
Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné la crainte qu'un putsch militaire finisse par remettre en place un régime autoritaire, martial? Ou est-ce que assez automatiquement, les capitaines d'avril et le MFA a remis le pouvoir, a provoqué des élections populaires et...
À un moment donné, juste avant... au mois de mars, il y a eu une première tentative avec des officiers qui sortaient de Mafra, mais échoué. On a dit que c'était des gens qui étaient liés à un autre général qui s'appelait Causla d'Arriaga. C'est un fasciste notoire, un colonialiste notoire, mais on n'a pas eu de preuves effectives qu'il a essayé de faire quoi que ce soit juste avant le 25 avril. Et après, il y a eu, c'était le 28 septembre de 1974, la première tentative d'un coup d'État de droite. C'était la majorité silencieuse qu'ils ont essayé, c'était au mois de septembre. Mmh. Il y a eu un mouvement énorme de la population qui... sont mis sous les grands axes routiers du Portugal. Qui arrêtait toutes les voitures, surtout venant du nord, parce que la menace venait du nord, et un contrôle absolu. Mais tout le monde respectait les bourgeois, tout ça, et puis ils étaient vraiment offensés, hein, mmh. qu'on lui fasse descendre des voitures, de contrôler qu'est-ce qu'ils avaient et tout. Mais on a quand même capturé pas mal d'armes dans cette opération.
D'accord.
Et puis il y a eu la tentative de Spinola, mmh. le 11 mars de 1975. 75, qui ont bombardé la caserne de Ralis. C'était le régiment d'infanterie. Et ils ont tué un soldat, un militaire. Mais encore une fois, ils ont échoué. Et puis Spinola, et avec des autres officiers hautement gradés, qui sont partis en Espagne franquiste. Ils ont trouvé
refuge.
Un soutien là-bas. Mm-hmm. Et c'est de là qu'après, ils vont continuer à essayer de faire chuter le pouvoir mis en place, disons, du MFA et de...
Ouais. Est-ce que tu penses que si ça n'avait pas... Il fallait que ce soit les forces armées qui déclenchent quelque chose, tout simplement parce qu'il y a l'organisation, il y a le réseau, il y a la logistique. Ça aurait été beaucoup plus compliqué, si ce n'est impossible, que ça parte de la société civile, des étudiants, de...
Ouais. Ça a toujours été essayé un peu comme ça. Hein. C'était un peu la stratégie du Parti communiste portugais, le soulèvement populaire. Mmh. Mais le soulèvement populaire, il avait toujours du plomb dans l'aile, dans la mesure que la bourgeoisie nationaliste, il voulait rien faire avec le Parti communiste. Et puis le Parti communiste, il insistait sur cette stratégie-là jusqu'au 25 avril. Ils ont essayé à plusieurs reprises de le faire. Mais par exemple, des personnes comme Soares et compagnie, ils voulaient rien avec le Parti communiste. Mmh. Dans des situations pour les élections, par exemple, de 1969 et 1973, il y a eu des tentatives d'alliance, etc. Mais ça a foiré chaque fois parce que les divergences étaient très notoires mmh. entre le Parti communiste et puis le Parti socialiste. Et puis, d'un autre côté, il y avait toute autre frange de la bourgeoisie nationaliste qui ne voulait même pas entendre parler d'une alliance éventuelle avec le Parti communiste.
Sans blague.
Ils se sentaient mieux avec les fascistes qu'avec les...
Et oui. Et malheureusement, il y a des précédents. Enfin, on connaît des précédents.
Ouais, ouais.
Deux événements dont tu vas me dire si effectivement ils ont été, comme des fois on l'entend ou on le lit, déclencheurs, ou en tout cas qui ont accompagné la révolution des œillets. La chanson au moment de l'Eurovision, hein, qui est diffusée à Depois, alors je ne sais pas prononcer le Portugal, et après les adieux de Paulo de Carvalho.
Ouais, Paulo de Carvalho. Depois do adeus.
Exactement. Alors ouais. On dit de cette. Alors que la chanson n'avait pas de portée politique ou polémique.
Non.
C'est un des signaux qui avait été choisi par le MFA, le mouvement des forces armées, pour indiquer le tout début des opérations.
Voilà.
Ça, c'est...
Voilà. On était en train de quitter le vieux monde.
Ouais.
Après, avec la fraternité des grandes lois.
Et voilà. Et la deuxième, c'était le signal définitif, est lancé par la diffusion des premières strophes de la chanson Grande de la Villa Morena de José Alfonso.
Ouais.
Zeca
Fons.
Voilà, ouais, ouais. Prononciation, c'est compliqué. Et à Radio Renascença. Donc, depuis une radio, qui est la radio Renascença.
Radio Renascença, ouais.
Voilà. Et alors, effectivement, nous, ça nous touche parce qu'on fait de la radio également. Donc, du coup, on avait préparé, et dans le montage, je mettrai la chanson à la fin de notre entretien. Cette chanson-là, elle est restée dans les mœurs. Hein. On entend encore des Portugais qui chantent
cette chanson.
Un peu comme Bella Ciao, pourrait-on dire, pour les Italiens. On peut dire que ça
un peu.
Qu'est-ce qu'elle a de si révolutionnaire ou de si beau que ça, cette chanson ?
De révolutionnaire, en soi, il n'y a rien.
C'est ce qu'on en fait les gens.
Mais elle parle justement de la fraternité, de cette amitié, de l'égalité pour tout le monde, en chaque visage, la solidarité. Ça appelle à ça.
Mm-hmm.
Et puis, autre chose, c'est qu'elle a été choisie parce que quelques mois avant, deux mois, voire même un mois, avant le 25 avril 1974, il y a eu une fête, un concert de musique dite populaire au Coliseu de Recreios à Lisbonne, en plein cœur de Lisbonne. Et puis d'un coup, les gens commencent à chanter ça. C'est devenu un symbole sur le moment de dire, voilà, c'est une musique qui est interdite, mais on la chante quand même.
Mm-hmm.
Et ils l'ont chanté, il y avait 5000 personnes qui chantaient ça, debout. Alors, je pense dans l'immense intelligence de nos officiers militaires, ils ont dû se dire qu'effectivement, ce serait celle-là parce qu'elle était déjà comme un symbole d'unification.
Oui, oui, et puis les premières strophes, c'est effectivement Terra de Fraternidad, c'est la terre de fraternité. Enfin, elle contient quand même des valeurs qui sont là.
Hein. Puis elle était enregistrée à Paris, cette chanson.
Okay.
Et avec tous les autres musiciens de l'époque, ils s'entraidaient entre eux, José Mario Branco, Serge Goudinho, tous ces gens.
Je me demandais comment, tout à l'heure on a parlé du refuge chez les franquistes, à un moment donné, il y a également une chanson, L'Estaca, qui est cette chanson en catalan, qui est une chanson antifasciste catalane, et je me demandais s'il y avait des rapports à faire entre les deux, pas spécialement.
Moi, vrai dire, je peux pas te répondre parce que je la connais pas.
Bon, c'était juste.
Mais peut-être qu'il y a des similitudes.
Ouais. Alors dis-moi, quelles sont les conséquences de cette révolution des œillets à laquelle on peut assister aujourd'hui ? Ça, c'est le premier volet de la question. Et y a-t-il une postérité ? Parce que, à un moment donné, on parlait de processus révolutionnaire en cours. Est-ce qu'on pourrait dire que quelque part, il y a une continuité encore dans l'esprit des gens ? Il y a quelque chose qui pourrait encore être activé ?
Je dirais que au moment, comme je disais tout à l'heure, qu'entre le 25 avril et fin mai de 74, le mouvement qui a été déclenché, c'était un mouvement quand même en profondeur. La grève de juste avant le 25 avril 74, c'était des luttes uniquement économicistes, salaires et des choses comme ça. Et à partir du 25 avril, vient se mêler l'élément politique dans les revendications. Et qu'est-ce qu'on revendiquait ? Les nationalisations, la réforme agraire, l'expulsion des fascistes du conseil d'administration et de l'armée, on a tout balayé, autogestion, contrôle ouvrier de la production, savoir comment on produit, pourquoi on produit, pour qui on produit. On devait répondre à ces trois questions pour pouvoir avoir un programme. Et à ce moment-là, on s'est dit que pour consolider toutes ces revendications, parce qu'après, dans les entreprises, il y a eu des luttes, le droit de grève, la loi sur le droit de grève, l'institution des commissions des travailleurs dans les entreprises, l'organisation de base syndicale qui n'existait pas dans les entreprises, elles ont commencé à exister, tout ça, dans un espace de temps. Et c'est là que la bourgeoisie, elle a pris peur. Mm-hmm. Ils ont dit, mais c'est pas possible, ces gens, mais ils sont allés chercher ces idées où un peuple qui était sage,
les travailleurs,
qui disait rien, qui faisait rien, qui travaillait uniquement. Mm-hmm. C'est les communistes qui font tout ça, etc. Et c'est là qu'il commence une grande conspiration venant justement de l'Espagne avec Spinola. Ils vont mettre le Portugal à fer et à sang et à feu avec un réseau bombiste qui ont tué, assassiné des personnes, ont fait exploser des ponts, des maisons, des sièges des partis à gauche comme UDP, PCPR, PCP, toutes ces organisations à gauche, les sièges ont tous été incendiés. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont commencé à créer des incendies entre la région centre et nord de Portugal, la région qui va de Rio Maior jusqu'à passer à Viseu, Porto et Vila Real de Trás-os-Montes, cette partie intérieure de Portugal très pauvre, où il y avait beaucoup de forêts, des pins noirs, d'eucalyptus, et tout passait à la trappe. Et puis, bien évidemment, commence le discours, il faut arrêter ça. Et, bien évidemment, eux, ils disaient que c'était les gauchistes qui faisaient ça. Et alors, commence le grand discours et les appels à l'ordre. Il faut de l'ordre, il faut de l'ordre. Et tout ça, en connivence avec, par exemple, le directeur de la police judiciaire de Porto, il connaissait parfaitement qui mettait les bombes, il savait très bien qui faisait les incendies, et il enquêtait, il libérait les fascistes assassins, et puis il mettait en prison les gens de gauche qui dénonçaient la situation.
Les opposants... Effectivement. Alors, encore une petite... Oui.
Donc, comme tu disais, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui de cette...
Qu'est-ce qui reste dans les esprits ?
Il y a encore beaucoup de choses sur le droit de parole, le droit à la santé, même si c'est déjà un peu mal entamé, le droit à l'éducation, à la formation. Ce sont des revendications de base du 25 avril qui subsistent encore.
Et dans les esprits, est-ce que des jeunes Portugais endossent cet héritage de la révolution des œillets, ces valeurs de partage, d'altruisme?
Au Portugal, oui, il y a encore beaucoup de gens qui croient à cela. Il y a des enseignants dans les écoles et dans les collèges qui essayent d'amener les idées et le débat autour du 25 avril, de notre histoire. Ça commence à devenir un sujet d'études de mémoire. Mmh. Parce que quand même, ça fait 45 ans.
Et, oui.
Et qu'il y a quand même un passage. Mmh. Peut-être pas avec l'ampleur qu'on souhaiterait, mais il y a quand même, on parle, on fête encore chaque année. Là maintenant, le 25 avril, il va avoir ses fériés au Portugal. Il va avoir une grande manifestation à Lisbonne, à Porto, à Setúbal, dans les régions assez... importante avec des traditions ouvrières. Ouais.
Mmh. Il y a un travail de mémoire qui est en route et qui continue et qui n'est pas ostracisé, j'espère, dans les universités, parmi les historiens. Parce qu'il y a également un pont du 25 avril, qui était le pont Salazar, me semble-t-il.
Oui.
Donc il y a, je veux dire, l'histoire permet que l'on parle et on trouve des signaux dans l'histoire que l'on enseigne au Portugal du 25 avril.
Oui, parce que il y a ça a été pratiquement resté tabou pendant une période, et surtout la question coloniale.
Mmh.
Et alors, à tout un courant des historiens, dont Irène Pimentel fait part fait partie de ces historiens, qui travaillent en profondeur. Elle, par exemple, est très spécialiste sur la structure de l'État fasciste, la police politique. Le rôle des femmes dans l'État fasciste, etc. Elle fait ce travail-là. Et puis, il y a d'autres qui sont en train de faire sur la guerre coloniale, justement, sur les exilés, sur... Il y a tout un pôle de profs, d'enseignants à l'université de Coimbra qui sont en train de faire un travail très intéressant dans la matière de la guerre coloniale. Pour ne pas tomber dans l'oubli, on travaille même la mémoire, oui. Les différents aspects de la mémoire.
Oui, parce que je te demandais ça, parce qu'effectivement, on assiste en Espagne à des problèmes encore maintenant avec, concernant la mémoire et même jusqu'au cadavre, hein, des personnes qui sont dissimulées et que l'on ne veut pas exhumer pour ne surtout pas remettre en question des actes de torture ou des exécutions, tout simplement. Donc, au Portugal, on peut dire que ce travail de mémoire, en tout cas, il est entrepris.
Il est entrepris avec des gens vraiment très, très sérieux dans ce qu'ils font. Et ça nous réjouit beaucoup. Oui. Moi, j'ai essayé de le faire venir ici à Genève pour parler aussi, parce que c'est quand même important. On a quand même ici 35 000 ou 36 000 travailleurs et travailleuses portugaises à Genève. Il y a beaucoup de jeunes qui descendent de cette... qu'on appelle la deuxième, voire déjà même la troisième génération, il faut qu'il y ait quand même un véhicule.
Une transmission, bien sûr.
Ces jeunes de s'informer, de savoir un peu.
Oui. On peut dire de Coimbra que c'est quand même une ville un peu universitaire, un peu la Heidelberg du Portugal.
Où
Coimbra.
Coimbra,
c'est
oui.
C'est ça,
oui,
c'est une ville vraiment étudiantine.
Énormément.
Ça, ouais. Juste une petite question comme ça, lapide. Donc la police politique, elle a été dissoute.
Elle a été dissoute. Mais pour finir, ils ont tous été pratiquement recyclés. Ça, c'est une des grandes douleurs qui restent. Disons, dans la mémoire, c'est une blessure qui reste très... Ouais, c'est une blessure qui ne se ferme pas. Et tant qu'elle ne soit pas soignée correctement, on ne la fermera pas. En effet, la police politique, il y a eu des prisons. Ils ont été déchus de leur fonction, bien évidemment. Mais après, ils ont tous été recyclés.
Oui.
Pratiquement aucun en prison. Rien. Et les gens qui ont subi la torture, qui ont été emprisonnés, les gens qui ont été torturés, maltraités par cette police, c'est vraiment une mémoire blessée qu'ils ont, ils écrivent. Il y a certains qui commencent à écrire des livres, à expliquer leur expérience en prison. Comme ça se passait, la torture, la violence, les rythmes, la torture du sommeil. J'ai un ami qui a adhéré au Parti communiste portugais dans la même période que moi, José Pedro Soares. Il a fait 18 jours, nuits de torture, de statues, comme ça. Lui se dit même comment il a pu résister.
Tenir, ouais.
Jamais trahir. Ouais.
Là, tu penses qu'il y a encore des témoignages qui manquent de l'histoire, de la mémoire manquante. Et si c'est le cas, penses-tu qu'on arrivera un jour à la faire émerger, ou malheureusement, avec la distance et puis les différentes impunités, eh bien... un pan de l'histoire sombre du Portugal et de la révolution des œillets est perdu à jamais.
Bon, il y a eu des tentatives dans l'autre sens. D'ailleurs, il y a eu tout un courant qui voulait ces nouveaux riches qui sont au gouvernement, comme Passos Coelho, ou Portas, des gens comme ça. C'est des gens de la moyenne bourgeoisie, c'est même pas vraiment des riches, mais qui sont là au service de ceux qui sont riches, de la banque, des assurances et des choses comme ça. Et eux, ils voulaient enlever le R, parce qu'ils avaient dit, nous ne sommes plus dans la phase de R, nous sommes dans la phase de E, évolution, plus révolution.
Le processus d'évolution et non plus de révolution.
Et à partir de ce moment-là,
d'accord,
il y a tout un courant d'intellectuels qui ont vu le danger. Il a dit non, alors là, il faut travailler, il faut faire quelque chose, il faut remonter dans notre mémoire, il faut situer les choses là où elles doivent être. Et c'est là que maintenant, il y a beaucoup des jeunes, même des travaux de diplôme des universités.
Ça, c'est bien. C'est bien.
C'est sur des questions comme ça.
Il faut que les gens se réapproprient, les générations successives se réapproprient toute cette histoire. Écoute, on va arriver doucement au programme du 45e. J'avais encore une dernière petite question pour toi. Et puis, évidemment, si les personnes autour de nous souhaitent prendre un micro, elles sont les bienvenues. J'aurais voulu savoir, selon toi, y a-t-il des auteurs résistants, des figures comme ça un peu tutélaires? Tu sais, quand on entend Allende parler pour le Chili, il dit voilà, on avait Neruda. Est-ce qu'au Portugal, on peut dire qu'il y avait voilà, des philosophes, des gens qui ont vraiment pris parti à ce moment-là contre le salazarisme, contre l'Estado Novo et qui ont accompagné d'une certaine manière la révolution des œillets?
Oui, oui, beaucoup d'écrivains, écrivaines qui ont pris ça. D'ailleurs, on appelait ça le mouvement néo-réaliste. C'était toute une série de journalistes, écrivains, écrivaines, ouais. Avec des publications. Mais comme le problème de la censure, elle était quand même très importante, parce que la censure, le crayon bleu, comme on l'appelait, dans le cinéma, les arts en général, dans le journalisme, dans les publications des romans, des contes, tout était vraiment sous le contrôle. Les journaux, alors, c'était vraiment le contrôle absolu. Il n'y avait rien qui passait. Et eux, ils devaient trouver entre les lignes une façon de faire passer le message et l'espoir de qu'un jour quelque chose irait changer.
J'ai lu un tout petit livre, il y a cela longtemps, d'un philosophe qui s'appelle Alberto Pimenta, qui s'appelle Le discours sur le fils de pute, et qui était le discours sur le fils de pute. Et alors il nomme le fils de pute, c'est pas un personnage, c'est une sorte d'idée du fascisme, et il fait une sorte de grande analogie un peu poétique, justement en ne citant, alors le fils de pute c'est certainement une insulte, mais sans nommer les gens, et voilà, il parle des imbrications, des collusions, des complicités à différents niveaux des pouvoirs, pour que le pouvoir puisse s'exercer, avec des grands rouages et des petits rouages également, et c'était assez intéressant. Voilà, alors Alberto Pimenta, Discours sur le fils de pute, c'est un livre que, voilà. Le film Capitaine d'Avril, est-ce que tu l'as vu et comment l'as-tu trouvé? Est-ce que selon toi, après on va parler du programme, mais voilà, juste pour avoir une vue d'une personne...
C'est assez délicat la façon d'aborder le sujet, parce que le film met en valeur un des Capitaines d'Avril qui s'appelle Salgueiro Maia. Ok, Salgueiro Maia, c'est celui qui a pris, qui est allé arrêter le gouvernement qui était en place, qui s'était réfugié dans la caserne de Carmo, à la Garde nationale républicaine. Et lui, aujourd'hui, tout le monde essaie de dire que c'est lui qui a eu le rôle fondamental. Et puis, c'est pas vrai. Le grand stratège de cette révolution, l'homme qui a tout étudié, qui a tout mis en place et qui a dirigé ça dans une tente derrière une caserne, il n'était même pas dans la caserne, c'était avec un poste radio militaire, et c'est là qu'il a fait monter une tente de campagne, et c'est là qu'il a instauré son quartier général, et c'est là qu'il a commandé, c'était hôtel Saraiva de Carvalho. C'est lui qui a... Et comme lui a été arrêté, mis en prison et tombé en disgrâce, donc on ne veut plus parler de lui aujourd'hui. Et alors on s'est dit, on va repêcher l'autre. Et donc on l'a repêché parce qu'ils avaient besoin quand même d'un idole.
Voilà, d'une figure tutélaire. C'est tout le temps un peu problématique, ces questions de mémoire et de personnification de mouvements qui veulent être collectifs, et c'est un peu dommage quelque part. Alors, venons-en au programme. Donc, l'association 25 avril, qui est A25A également.
Ouais, de Genève.
De Genève, exactement. En collaboration de l'atelier Histoire en Mouvement, va organiser ces trois événements pour ce 45e anniversaire de la révolution des œillets. Ça commence alors, les événements, j'ai déjà donné les dates. Il y aura samedi 27 avril, samedi 1er juin, dimanche 2 juin, et ensuite le samedi 5 octobre. Alors, est-ce qu'on parle des trois sessions, des trois événements?
Ouais.
Allons-y. Alors, le samedi 27 avril, alors là, je lis sur le papier que tu nous as amené, bilan des changements au Portugal, 45 ans après la chute de la dictature et rôle des femmes dans le processus révolutionnaire. On ne l'a pas dit, mais ça aura lieu au syndicat UNIA, alors local, qui est chemin du Suriname.
Ouais.
Le bus 19, 6 et 10 s'arrête tout près. Et donc à partir de... Alors voudrais-tu nous dire toi le programme ou...
Non, vas-y.
Je le dis. Alors, à partir de 14h, ouverture par Pedro Cerdeira. À 14h15, présentation de l'association 25 avril et de l'atelier Histoire en Mouvement. Puis à 14h30, conférence d'Irène Flunzer-Pimentel, dont tu parlais, chercheuse à l'Institut d'Histoire Contemporaine, Faculté des Sciences Sociales et Humaines de l'Université Nouvelle de Lisbonne. À 16h, projection du film « Bom Povo Português » de Rui Simões. 128 minutes, donc un film documentaire qui retrace l'histoire du Portugal depuis le 25 avril 1974 jusqu'au 25 novembre 1975, période du processus révolutionnaire. À 18h15, le débat. Et à 19h, un petit apéritif et des tapas.
Détente.
Un moment de détente, très bien. Ce programme, ça a été... Voilà, pour l'élaborer, vous l'avez fait ensemble avec l'atelier Histoire en Mouvement. Comment ça s'est passé?
Non, parce que j'ai eu connaissance de l'atelier après.
Ah, donc...
Mais ils ont tout de suite adhéré à l'idée. Et puis bon, ils étaient surpris quand j'ai dit... Parce que, qu'on avait déjà tout... Tout était en marche, quoi.
Ouais.
Moi, quand je me mets à organiser quelque chose, il faut que ça roule, quoi. Il n'y a pas de temps mort.
Très bien, très bien.
Voudrais-tu, puis, voilà.
D'accord. Voudrais-tu nous dire quelques mots du film « Bom Povo Português » ?
Moi, je voulais, même avant, oui. de dire quelque chose de, sur la question dont on parle. Donc, on va parler de ces acquis,
oui.
où nous en sommes par rapport à 45 ans révolus. De cette révolution. Et puis le rôle des femmes. Pourquoi voilà. le rôle des femmes? Les femmes, on n'a jamais parlé de ces femmes dans la révolution. Moi, à l'époque, j'étais réfugié politique à Paris, de 71 à 74. J'arrive à Lisbonne le premier jour de mai, le 1 mai, et je me lis ce mouvement extraordinaire. Et le lendemain, donc le 2 mai, 3 mai, il y a des gens qui commencent à s'organiser dans la rue, comme ça. Il y a deux ou trois qui viennent avec un placard, qui dit « Ah, machin, liberté, machin, ah, on y va lutter pour les salaires. » Et d'un coup, tu avais 300, 400 personnes qui étaient suivies, qui ne savaient pas, même pas où elles allaient. Quoi. Mm-hmm. Et d'un coup, au bout de 5 jours, je vois un mouvement des femmes, un truc impressionnant, qui montait l'avenue de la Liberté. Et quand je regarde, c'était des infirmières. Mais que des femmes, elles étaient 5000 ou 6000. Un truc vraiment impressionnant. Et elles, c'est elles qui amènent la revendication du droit à la santé pour tout le monde. La formation, toutes ces choses-là. Quelques jours après, c'est les enseignantes, femmes aussi, elles, dans la rue, en train, qui balayent la ville de Lisbonne, aussi 5000, 6000. À mi-mai, il y a les travailleuses de l'économie domestique qui lancent la base de leur syndicat. Elles vont occuper une maison vide en face du Parlement et elles occupent... Elles occupent les locaux et, comme c'était énorme, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont constitué une cantine, faire à manger, ouvert à tout le public pour que les gens, tout le monde puisse venir donner, contribuer, donner un coup de main à leur projet. Et ça, on en parle très peu, très peu.
On peut dire qu'on minimise le rôle central des femmes.
Ouais.
Comment on t'explique ça? Tu as une idée de...
Pourquoi l'explication, c'est comme on explique un peu partout, hein, dans tout mouvement, dans toute lutte, toute révolution, ce qu'on voit, c'est les hommes, hein, et rarement les femmes.
C'est souvent ces figures-là qui, effectivement, sont mises en avant. Et
le fait, c'est qu'on n'a jamais mis en avant cette capacité d'organisation et de faire bouger les choses.
Mmh. Ouais. Alors, samedi 1er juin et dimanche 2 juin, cycle...
Ah, le film, tu parles.
Oui, ah oui, pardon, oui, j'avais oublié aussi. Bom Povo Português. Pardon pour la prononciation.
Le bon peuple oui. portugais. Donc, c'est un film de commentaires qui retrace, effectivement, toute la période révolutionnaire de ce profond mouvement populaire du 25 avril au 25 novembre de 75, qui a eu le contre-coup de droite.
Très bien. Allons-y pour la suite. Donc le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin, cycle cinéma José Vieira. Alors je lis, José Vieira, réalisateur de l'Exode, né au Portugal en 57. Il arrive en France dans les années 60 et depuis 1985, il a réalisé une trentaine de documentaires sur l'immigration et migration portugaise. Alors, cycle mémoire de Portugaises et de Portugais qui ont fui vers la France dans les années 60. Ça, ce sera au cinéma Spoutnik, hein, oui. Rue de la Couvrenière 11. Samedi 1er juin, à 20h30, souvenir d'un futur radieux de 90 minutes, puis débat avec le réalisateur José Vieira. Fin de soirée autour d'un verre et de tapas. Hein. Le dimanche 2 juin, à 19h, les photos déchirées de 52 minutes, puis à 20h30, les émigrés de 75 minutes. À nouveau un débat avec le réalisateur José Vieira et la fin de soirée, à nouveau autour d'un verre et de tapas. Et l'entrée est à prix libre. On l'a dit, c'est au cinéma Spoutnik, rue de la Couvrenière 11, le samedi 1er juin et dimanche 2 juin 2019. Voudrais-tu nous dire quelques mots de José Vieira ?
José Vieira, oui, c'était un enfant. Donc ses parents, ils ont immigré de Portugal. C'est la période de l'immigration économique. On est au début des années 60. Donc il arrive très jeune, il a encore joué dans la boue des bidonvilles. Donc c'est un cinéaste de bidonville, mm-hmm. comme j'aime bien lui dire, il ne se cache pas. Mm. Il parle de cette réalité-là. Donc il connaît, il sait qu'est-ce que c'est les bidonvilles. Et c'est à partir de là que lui s'est toujours intéressé à cette problématique de l'immigration. Et puis l'immigration dans les années 60, au début, c'est pour des raisons de manque de travail, manque de perspectives. Au Portugal, c'est vraiment la grande misère. C'est cette immigration qui vient de l'intérieur des terres du Portugal et qui va vers la France. Et après, c'est la période du grand exode, hein, c'était ou salt, comme on appelait le saut. Mm-hmm. Et puis, dans les années 68, quand après le début de la guerre en Angola, c'est en mars de 1961, alors l'immigration commence à s'activer. Surtout entre 65-68. Pratiquement jusqu'à la fin 60, commence à avoir l'immigration plus politique. Les gens qui commencent à refuser la guerre, de participer à la guerre, de se faire mobiliser, etc. etc. Donc, ils vont venir justement en France et c'est ça qu'il va nous raconter dans les films.
C'est extrêmement alléchant, ça donne vraiment, vraiment envie. Alors ensuite, le troisième et dernier événement, ce sera le samedi 5 octobre. Histoire du Parti communiste portugais, radiographie d'une organisation qui a résisté au fascisme de façon structurée et permanente. Ce sera tout près d'ici, à l'Université ouvrière de Genève, donc place des Grottes. Alors à 15h, conférence de João Madeira, auteur de l'ouvrage Historia do PCP, du Parti communiste portugais. L'ouvrage présente les moments les plus saillants du Parti communiste portugais, notamment la réorganisation en 1940-41, la scission maoïste en 1964 et puis la position face à la guerre coloniale de 1961 à 1974. Débat avec le conférencier João Madeira. Et à partir de 17h, à nouveau pour bien terminer, apéritif et tapas, la conférence sera en portugais avec traduction simultanée en français.
Ouais.
Alors, est-ce que tu veux nous dire quelques mots par rapport à ceci ? Effectivement, là, c'est un moment, il y a trois moments qui sont centraux hein, dans la conférence. Notamment, voilà, la position face à la guerre coloniale, ça on peut dire que c'est le gros morceau ?
Oui, parce que la position du Parti communiste portugais par rapport à la guerre coloniale, elle n'a jamais été aussi claire dès le début. Il y avait même des situations où le parti, il n'osait pas soutenir la politique coloniale, mais il n'avait pas une position ferme et claire par rapport à cette politique. Surtout au parti du moment qu'il y avait le déclenchement de la lutte armée. Il y avait même, au moment donné, des situations où ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec le déclenchement de la guerre coloniale. Parce que les gens qui étaient dans les mouvements, c'était des gens qui étudiaient à Lisbonne, Cabral, Agostinho Neto, des gens comme ça, qui étudiaient à l'université à Lisbonne et qui étaient connus quand même du Parti communiste, c'était assez proche, même s'ils ne militaient pas. Mais ils ont passé outre le parti et puis ils ont décidé d'organiser les organisations en vue de la lutte armée.
Très bien.
Donc ça, c'est, ça fait encore aujourd'hui débat. Oui. Et avec les années, parce que c'est quand même 13 ans de guerre coloniale, 8300 morts du côté portugais, presque 5000 du côté africain, des trois mouvements, l'assassinat d'Amílcar Cabral en Guinée-Conakry en 73, c'est 40% du budget national qui passe dans la guerre coloniale. Après, le parti, quand même, à un moment donné, ils ont commencé à comprendre que ne suffisait pas d'aller dans la guerre, parce que c'était aussi la position qu'on devait aller là-bas et puis organiser les désertions depuis l'intérieur de la guerre.
Mm-hmm.
Quand les militants, ils se disaient non, on n'y va pas. On n'y va même pas participer dans cette armée. Ils ne se présentaient même plus à la fin.
Mm-hmm. Yeah.
Donc c'est encore aujourd'hui ça fait débat.
Oui,
ça fait débat. Fait,
ouais. Alors c'est...
Et puis bon là, l'autre partie, oui. Le mouvement là, la réorganisation 40-41,
mm-hmm.
c'est vraiment le parti qui a été mis aux abois par la police politique à la phase de réorganisation, à un gros conflit interne. À de direction du parti au niveau national. Ouais, c'est intéressant comme après, ils vont ranger la maison.
Eh bien, tout ça, en tout cas, va nous permettre de nous plonger dans cette révolution des œillets. On l'a dit, révolution des œillets en trois événements, à l'aune du 45e anniversaire de la révolution du 25 avril 74 au Portugal. Je rappelle ce qui est dit là sur la fiche. Le 25 avril 1974, les forces armées portugaises, par le biais d'un coup d'État, ont mis fin à une des plus vieilles dictatures fascistes, 48 ans, en Europe. Et par la même occasion, à 13 ans, comme tu viens de le dire, de guerre coloniale en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau, permettant ainsi l'instauration de la démocratie au Portugal. L'association 25 avril Genève, A25A, organise trois événements entre avril et novembre 2019 pour lutter contre l'oubli et maintenir vive la mémoire.
Voilà.
Ça c'est important, hein, de
ouais.
maintenir vive la mémoire.
Ouais. Mmh. Pour finir, peut-être,
oui.
J'aimerais dire quand même, j'aime bien souligner ça, c'est que c'est la révolution des œillets au Portugal, elle a pu se faire avec les œillets, on ne peut pas dire autant des luttes de résistance. Et c'est effectivement la guerre coloniale, la lutte armée, les tirs, les fusils, des frères africains qui ont permis qu'on fête le 25 avril dans le bonheur pratiquement au Portugal. Et on les remercie pour cette résistance héroïque de leur part.
Merci beaucoup pour cette conclusion, merci beaucoup pour ta présence José, et on va se retrouver certainement au moment de ces conférences. Merci à toi.
D'accord, merci à vous aussi.
Avec plaisir en tout cas.